Allez, c'est parti. C'est les enfants à venir. Bonjour et bienvenue dans le podcast du blog Les Enfants à venir. Une réflexion personnelle, intime, des conseils dans le but de se simplifier la vie. La vie sans école, c'est un choix, c'est une philosophie. Quand on a envie de sortir du rang, quand on rêve de mieux pour nous et pour nos proches. Vous vous apprêtez à écouter une interview d'une famille ayant choisi la vie sans école. Cette interview est faite dans le cadre d'un défi que je me suis lancé. Je vous rappelle ce défi. Interviewer 15 familles en 15 semaines afin de vous fournir un panel d'exemples de pratiques d'instruction en famille. Et aujourd'hui, je reçois Kat, maman d'une famille vivant à l'étranger. Bonjour Kat.
Bonjour Marion.
Je te remercie beaucoup de bien vouloir participer à ce défi.
Je t'en prie.
Et du coup, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter, toi et ta famille.
Ok, alors, donc on est une famille de 6 avec 4 enfants et on habite depuis plus de 20 ans à l'étranger et là, en ce moment, depuis 10 ans, plus ou moins, en Australie.
D'accord, ok. Donc, c'est pas la porte à côté.
Non, c'est pas la porte à côté.
D'accord.
C'est vrai, ça peut pas être plus long, hein. Donc, en fait, ça fait 7 ans qu'on fait du unschooling ou worldschooling.
Oui.
Et donc, notre aîné a 15 ans.
D'accord.
Et notre dernier a 7 ans, justement.
15 ans jusqu'à 7 ans. Donc, vous avez 4 enfants.
Voilà.
Ok.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et du coup, tu dis unschooling ou homeschooling. Quelle façon vous avez de faire l'école à la maison?
Alors, en fait, on n'a jamais suivi de curriculum.
D'accord.
On a toujours été plus à regarder ce qui intéressait nos enfants. Essentiellement parce que pour nous, l'intérêt de sortir de l'école, ce n'était pas justement de reproduire l'école, mais d'avoir une autre approche. Et en plus, on n'est pas instituteur ni l'un ni l'autre.
Oui.
Donc, du coup, ça ne nous a pas du tout effleuré de reproduire le modèle de l'école, en fait.
D'accord. Du coup, vous n'avez pas du tout de support, pédagogie, méthode.
Si, on en a, mais on ne les utilise pas systématiquement et on n'a pas un horaire systématique pour dire, bon, allez, là, de 8h à midi, on fait l'école. On n'a pas du tout de structure comme ça, de routine, en fait.
D'accord. Alors, explique-nous, comment vous faites?
Alors, tout de suite, c'est très évolutif et puis chaque enfant est vraiment différent dans sa manière d'apprendre.
Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait la même chose avec nos enfants et on continue de faire complètement différemment. Et justement, on est en train de se poser la question puisque en Australie, là, c'est les vacances d'été.
Oui.
Et donc, dans une semaine, c'est la reprise de l'école officielle. Et notre aînée veut aller à l'école. Donc, elle rentre à l'école en l'équivalent de première.
D'accord.
Juste pour passer son bac, en fait. Parce qu'elle veut... en fait, elle voulait retourner à l'école pour diverses raisons. Essentiellement parce qu'en fait... La scolarité en Australie est assez différente de la France, parce qu'il n'y a pas de redoublement, donc il n'y a pas de sanction par le bas.
Oui.
Il y a un niveau dans chaque niveau, il y a un niveau vraiment complètement disparate dans chaque matière, ce qui est un énorme avantage pour les gens qui font l'école à la maison, puisque justement le gouvernement ne peut pas nous demander des résultats en fonction d'un âge.
D'accord.
Du coup, on n'a pas à dire, bon, bah, toi, tu as 7 ans, donc tu dois savoir lire, par exemple.
D'accord.
Pas du tout, parce qu'à l'école, ils ont des enfants qui ont 13 ou 14 ans qui ne savent pas bien lire du tout. Donc,
ah oui?
Voilà. Ouais.
Ah oui, c'est très étonnant.
Ouais, c'est une approche complètement différente. Bon, c'est vachement inspiré du modèle anglo-saxon, en fait, avec le soleil en plus, je pense. Donc, du coup, ça fait que vraiment le niveau est assez bas.
D'accord.
Mais par contre, la première et la terminale, c'est 2 années très intensives. Donc déjà, il y a beaucoup moins d'enfants qui vont jusqu'à la première. En général, ceux qui sont moins forts, ils basculent sur des formations plus genre CAP.
D'accord.
et qui sont pas vus du tout comme en France, puisque ce sont des métiers qui sont énormément demandés et super bien payés ici.
D'accord.
Et donc, ouais, par contre, la première terminale, donc là, ce sont deux années très intensives où ils doivent avoir des résultats pour pouvoir rentrer à l'université, sinon ils rentrent pas à l'université, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, comment vous en êtes venu à l'IUF ?
Alors, en fait, on a habité pendant longtemps en Angleterre. Okay. Et quand on habitait en Angleterre, donc c'est là où on a commencé à avoir des enfants. Et j'ai tout de suite tourné dans des milieux très Steiner et très éducation positive, des choses comme ça. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient l'école à la maison. Et au début, j'étais vraiment étonnée parce qu'en France, je ne connaissais personne, en fait. En y réfléchissant après coup, je connaissais un enfant qui était à l'école à la maison quand moi, j'étais en terminale. Et c'était un de mes voisins. Et vraiment, il passait vraiment pour l'intellectuel mal dans sa peau, qui sortait jamais. En fait, je ne l'ai jamais vu, ce gars.
Le mythe.
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça, mais complètement, quoi. Et c'était drôle. Et en plus, je me rappelle des commentaires de ma mère qui étaient vraiment à dire, le pauvre, quoi, il est complètement il est perdu dans son monde, tout seul à faire son CNED derrière son ordinateur, quoi.
D'accord.
Justement, j'aimerais bien le rencontrer maintenant pour voir ce qu'il est devenu, quoi. Ça s'est jamais produit. Mais bon, donc du coup, en tournant dans des réseaux avec beaucoup d'écoles à la maison, j'ai rencontré surtout beaucoup d'adolescents qui étaient à l'école à la maison. Et là, j'ai trouvé que leur façon d'être était complètement différente des autres adolescents que je connaissais en France.
Oui.
En France, parce que mes neveux étaient plus âgés, donc du coup, j'avais cet élément de comparaison et ça n'avait rien à voir. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable. Enfin, on ne peut pas dire, bon, c'est l'école à la maison, forcément. Mais n'empêche que ça devenait quand même assez fréquent que je réalise à quel point leur relation à l'adulte était différente des autres adolescents, où il n'y avait pas justement ce regard à l'adulte comme le professeur qui sait.
Oui.
Et c'est sûr que le milieu anglo-saxon fait aussi qu'il y a ça, parce qu'on est rentré donc l'année dernière en France et ça a été assez le choc, et en particulier de voir la relation de l'adulte à l'adolescent en France. Il ne faut pas être adolescent en France, hein. C'est vraiment, mais... Donc ça nous a beaucoup choqués de voir à quel point, donc déjà le vouvoiement,
oui,
qui était quelque chose que mes enfants évidemment n'avaient pas, enfin pas évidemment, mais n'avaient pas appris parce qu'ils ne nous voient pas, donc ils n'ont jamais l'opportunité de vous voir, en fait.
Oui.
Et où notre aînée s'est vraiment fait rouspiller par des gens comme quoi elle ne parlait pas sur la bonne tonalité, mais en fait, de manière générale, elle n'avait pas à parler à des adultes, quoi. C'est ça que plus d'une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est ce côté où l'adolescent n'a rien d'intéressant à dire, en fait. Donc, il ne parle pas à l'adulte, quoi.
Ouais, ça a choqué tes enfants aussi.
Ah oui, complètement. Mais surtout notre aîné, hein, donc, qui a 15 ans, c'est pas du tout comme ça ici. Et puis c'est horrible, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a choquée. En fait, je crois que je n'en étais pas consciente avant de le voir sur elle, quoi.
D'accord. T'en étais pas consciente, mais c'est quand même ce rapport différent qui t'a attiré à faire l'instruction en famille.
Mais je pense que la relation à l'adolescent dans les pays anglo-saxons n'est pas comme ça non plus, même pour les enfants qui ne sont pas en instruction en famille, quoi. De toute manière, la relation et la parentalité, mais dès le plus jeune âge, en fait, quand on habitait en Angleterre, qu'on avait des enfants en bas âge, à chaque fois que je rentrais en France et qu'on allait au supermarché, à chaque fois, ma fille, elle me disait « Mais maman, pourquoi la dame, elle crie sur son enfant ?» Donc, je lui ai tout de suite... c'est vrai que c'est horrible ce que je vais dire, mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est que je l'obligeais à me parler en anglais pour que les gens ne comprennent pas, quoi. Parce que c'est constamment en France, quoi.
Oui.
Mais c'est vrai que ça tu vois, j'en étais consciente très vite, puisque à travers mes enfants. Mais là, de rentrer avec des enfants plus âgés et de me rendre compte qu'en fait, c'est cette relation à l'adolescent, mais c'est incroyable. Donc c'était vraiment, ouais, ça m'avait fascinée de voir justement à quel point ces adolescents étaient mieux dans leur basket, étaient ouverts, ils posaient des questions, ils s'intéressaient, tu vois, ils avaient de la curiosité. Donc ça m'avait fascinée.
D'accord.
Et puis, on a déménagé ici et on a voyagé entre-temps pendant un an et demi. Et quand on est arrivé ici, en fait, notre aîné qui avait 5 ans à ce moment-là a absolument voulu retourner à l'école. Mmh. Donc on l'a mis à l'école. Et puis moi j'ai travaillé et mon mari est resté à la maison avec les autres qui étaient pas en âge d'école encore.
D'accord.
Et donc moi dans ma tête j'ai toujours eu envie de faire l'école à la maison. Mon mari non, essentiellement pour le côté social, hein.
Oui.
Et donc, il est devenu papa à la maison. Donc là, il a pris quand même, comment dire, de manière gentille, une petite claque quand même, hein, parce que c'est la réalité de passer 24 heures sur 24 avec des enfants. Donc ça lui a fait beaucoup de bien.
Et c'était et des puis, tout petits en plus, c'est ça?
Oui, c'était des tout petits, ouais. Ouais. Enfin, des tout petits, oui, ouais, quand même. 5, 3 et 1 et demi.
D'accord.
Et puis l'année d'après, en fait, donc, notre deuxième a commencé à l'école en maternelle. Et là, l'école, en fait, demande beaucoup que les parents font du bénévolat. Et donc, une fois par semaine, il allait aider dans la classe. Mm-hmm. Et là, il a eu un déclic de voir à quel point. Donc, pourtant, c'était une école assez privée et où ils n'étaient que 28. Et à quel point il avait mal à la tête en sortant. À quel point aussi, c'était conformiste.
Oui.
Et même en maternelle, on leur demandait de faire du vert dans l'arbre avec du marron pour le tronc. Et ça, en plus, c'est notre fille qui est la plus artistique. Donc, du coup, ça lui brisait le cœur de voir à quel point elle était obligée de faire quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envie de faire. Oui. De ne pas pouvoir finir son dessin ou son coloriage ou quoi que ce soit. Et dès qu'elle sortait du cadre, c'était tout de suite, ça n'allait pas, quoi. Donc, ouais. Ça l'a vraiment... Ça l'a pas mal bousculé. L'autre raison, c'est aussi parce que notre fille aînée, en fait, très vite s'est embêtée à l'école. Mais elle adorait le côté social, justement.
D'accord.
Et donc, rapidement, on les a sortis de l'école. Et c'était plus facile parce que du coup, ça venait pas que de moi. Quoi. C'était pas que moi qui avais pris cette décision.
D'accord. Et tu dis d'un point de vue social, est-ce que tu penses que le fait de faire l'instruction en famille, forcément, ferme les portes de la sociabilité?
Je pense... Non, ça, c'était mon mari qui pensait ça. Mm-hmm. Je pense que ça m'a toujours fait rire et ça me fait toujours rire quand les gens avancent ça comme excuse pour ne pas faire l'école à la maison ou pour dire le pauvre, là, blablabla. Hein. Mm-hmm. Mais alors que pour moi, le côté social à l'école est horrible, justement. Parce que, justement, même s'ils ne sont pas beaucoup, ils n'ont pas vraiment de relations profondes. Ils n'ont pas le temps de passer du temps de qualité ensemble. C'est toujours... Non, mais tout... Enfin, je ne sais pas, maintenant... Je pense que dans le monde de l'école à la maison, tout le monde sait que c'est un argument complètement négatif et complètement superficiel. Quoi. Oui. C'est seulement les gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la sociabilité et à quel point ça peut être justement des échanges beaucoup plus positifs et beaucoup plus variés en âge aussi.
Oui.
Mais ça demande aussi, pour moi, de faire du unschooling, ce n'est pas du tout reposant en quelque sorte. Enfin, on a parfois des commentaires... comme quoi on n'en sait rien, bah en fait, ça demande énormément d'organisation de rien faire.
Explique-nous.
Parce que justement, l'idée, c'est de vraiment proposer un maximum d'activités et d'expériences aux enfants.
Oui.
Pour qu'eux, ils trouvent ce qui les intéresse. C'est pas comme ça qu'ils vont juste se rendre compte que « Ah oui, ça, c'est vraiment intéressant. » Non, ça. C'est vraiment en multipliant les rencontres, quoi. Donc, en fait... On est très rarement à la maison. En plus, je suis pas quelqu'un qui aime spécialement être chez lui, chez elle. Enfin, j'aime pas trop être à l'intérieur et j'ai toujours besoin de voir du monde. Donc, pour moi, le côté social, ça n'a jamais été un problème.
D'accord.
Et je comprends que les parents qui, eux, aiment bien être seuls ou se sentent bien avec leur propre compagnie, ils se posent plus de questions à ce niveau-là. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime sortir et rencontrer des gens. Donc, c'est très facile en Australie. Donc, c'est vrai qu'il suffit qu'on aille au bout de la rue, il y a le monsieur qui aime bien aller voir les oiseaux, il va emmener les enfants pour aller observer les oiseaux. Enfin, il y a plein d'opportunités qui sont assez faciles à créer, en fait.
Ok. Mm.
Et ce que j'ai vraiment découvert aussi, c'est à quel point, quand on demande aux gens, et surtout aux gens qui sont passionnés, de passer du temps avec eux,
oui.
Ils seront toujours prêts à faire. Ils trouveront toujours du temps parce que pour partager leur passion.
D'accord. Ok. Donc voilà, vous leur faites découvrir tous les acteurs locaux.
Ouais, c'est pas forcément des gens qui sont professeurs dans ce domaine, pas du tout.
Hein. Et non, au contraire.
Ils sont passionnés, ouais. Voilà.
Passionnés et professionnels, du coup.
Ouais, voilà. Et puis c'est aussi beaucoup aller au musée, ou aller voir des expos, ou aller faire des choses comme ça. Donc voilà. D'accord. Donc nous, en fait, on a choisi... Donc on est unschooler, mais il y a des choses avec lesquelles... personnellement, je ne suis pas du tout d'accord sur le unschooling radical. Par oui. exemple, il n'y a aucun écran dans notre maison. On n'a pas la télé depuis 20 ans à peu près. Mm-hmm. Les enfants n'ont pas le droit de regarder des écrans. Et ils passent très, très peu de temps sur Internet. C'est extrêmement contrôlé, bien qu'ils soient plus âgés.
D'accord.
Et une des raisons pour laquelle j'avais envie de témoigner, c'est que souvent, les gens qui témoignent, qui font l'école à la maison, ils ont des enfants en bas âge.
Oui.
Alors qu'en fait, je trouve ça très intéressant de faire l'école à la maison avec des enfants plus âgés, même si c'est indéniable, ça crée un décalage. Et nos enfants sont assez naïfs ou immatures.
Oui.
Pas immatures dans le sens, je sais pas comment expliquer, mais vraiment sur tout ce qui est relation aux garçons, par exemple,
oui.
Pour les filles, elles voient aucun problème de jouer avec un garçon. Parce que justement, il n'y a pas. Ce qui est intéressant, c'est l'autre. C'est pas forcément. Oui, ça reste une relation très, très jeu. Et en fait, ils jouent encore beaucoup dehors. Ou, voilà.
Ok. Il n'y a pas, de problème de comparaison comme peut y avoir. Voilà, tu dis qu'ils sont en décalage par rapport à ça dans le côté positif.
Ouais. Oui. Forcément positif. Des fois, c'est vrai, je me demande, tu vois, par exemple, hier soir, donc celle qui avait 13 ans, elle avait une copine à la maison pour dormir, qu'elle a rencontrée il y a quelques semaines, donc elle la connaissait pas très bien, et elle a 11 ans.
Oui.
Donc elle a quasiment l'âge de sa sœur, plus petite, tu vois.
Oui, c'est ça, ouais.
Mais elle, ça lui pose pas de problème, elle voit pas où est le problème, quoi. Le problème, il y a pas de problème, c'est pas grave, quoi. On s'en fout de l'âge.
Ouais.
Donc elles ont trouvé des points communs, voilà, ça lui suffit.
Ok. Elles sont pas cloisonnées par âge.
Non, pas du tout. Ouais. Alors que cette fille, elle va à l'école, hein, parce qu'il n'y a pas... Ça non plus, ça n'empêche pas. Mais okay. Par contre, quand on est rentré en France l'année dernière, on a vachement plus senti la pression, justement, surtout notre fille de 10 ans, de pas lire et écrire français.
Oui.
Tu vois, ça l'a vraiment... mais je ne sais pas, ça faisait 2 semaines qu'on était là, et ça y est, elle était là. Bon, ben moi, je veux apprendre à lire en français, je veux qu'on achète une méthode comme ils font à l'école. Il a fallu qu'on se colle la méthode scolaire, quoi. Qu'elle voulait apprendre à lire.
Okay.
Alors que ça lui jamais, jamais avant, elle lui aurait demandé ça, quoi.
Et ouais. Je vais changer complètement de sujet. Comment vous vous organisez au point de vue travail? Est-ce qu'il y en a un des deux qui fait l'IEF? Est-ce que vous faites tous les deux, enfin, de s'occuper des enfants, du coup?
En fait, là, on rentre de voyage. On a voyagé pendant 3 ans. Mais avant qu'on voyage, c'est moi qui travaillais et Gaëtan restait à la maison.
D'accord.
Donc au départ, c'était lui qui s'occupait plus de ça. Ceci dit, j'avais un travail assez flexible parce que je travaillais à mon compte. Et donc, comme il trouvait ça très dur d'être tout le temps avec les enfants à la maison, il a décidé de recommencer à travailler un peu. Donc lui aussi, il travaillait à son compte. Donc en fait, on jonglait un peu, tu vois. On essayait qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison, ce qui n'était pas toujours le cas.
D'accord.
Mais... Voilà, on essayait plus ou moins de faire comme ça un peu chacun. Et c'est ce qui nous convenait le mieux. Mmh. Donc là, ça fait 4 ans qu'on est rentrés. Et maintenant, je pense que pour moi, maintenant, c'est plus important que je sois à la maison qu'il y a 3 ans.
OK.
Parce que justement, cette période de l'adolescence, et de la même manière, j'étais très présente quand mes enfants étaient très petits. Mais la période de l'adolescence, là, je trouve que c'est vraiment important d'être là.
D'accord.
J'aurais jamais pensé que j'allais dire ça un jour, mais c'est parce que justement, les enfants ont plus besoin. Tu vois, ils se sentent indépendants, ils prennent vachement plus de liberté, ils sont beaucoup plus. Notre aînée, elle prend son vélo, elle va voir ses potes, enfin, elle est jamais là.
Ouais.
Mais en fait, c'est maintenant pour moi qu'il y a besoin de mettre des limites.
Ok.
Et de garder justement les valeurs qu'on voulait créer pour notre famille.
D'accord.
Donc, en fait, nous, quand on a commencé à faire l'école à la maison, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Et on s'est donné 3 axes d'apprentissage.
OK.
Et on a essayé de les suivre. C'est pas forcément super suivi, mais c'était vraiment... On avait envie d'avoir une direction, en fait. Parce que quand on les a sortis, on s'est dit d'abord... On s'est mis aucune pression. Hein. On s'est dit, bon, si ça marche, bon, on le mettra à l'école, c'est pas grave. Et puis, on avait envie d'essayer quelque chose de différent. Et puis aussi, on voulait avoir la liberté pour pouvoir repartir voyage.
Ok. Et quels étaient ces 3 axes?
Alors, ces 3 axes, en fait, c'est la spiritualité.
Oui.
Donc, on est chrétien, on est pratiquant.
Mm-hmm.
Et on essaie vraiment de leur inculquer des valeurs à travers la religion, à travers la Bible.
D'accord.
Donc, ça doit paraître vraiment extrême vu de la France. Mais c'est pas de l'endoctrinement non plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup plus basé sur une spiritualité. Donc, on fait pareil. Moi, je suis prof de yoga, donc on fait pas mal de yoga ensemble.
Ok.
On essaye de faire de les éveiller à la méditation, par exemple, ou tu vois, leur apprendre différentes sortes de respiration, une gestion des émotions qui passe par ça. Ça marche pas forcément tout le temps, hein. Je dis pas du tout qu'il y a pas de colère chez nous, hein. Pas du tout, hein. Loin d'être parfait, mais c'est l'idée, quoi.
D'accord.
Notre direction, en tout cas.
Ok.
Donc, la spiritualité, la musique.
Ok.
On avait 13 ans qu'ils puissent avoir l'opportunité d'apprendre des instruments, d'apprendre le chant. D'ailleurs, là, depuis qu'on est rentré, en fait, on a créé une chorale avec un groupe de familles qui font l'école à la maison. Et on est allé chanter des chants de Noël dans des maisons de retraite et à l'hôpital pour Noël. Parce que tu sais, les chants de Noël dans les pays anglo-saxons, c'est très très important.
Ok.
Et c'est génial pour les enfants de pouvoir chanter en public. Et les maisons de retraite, ils ont reçu un accueil phénoménal parce qu'ils étaient des enfants, pas parce qu'ils chantaient super bien, mais juste parce qu'ils étaient des enfants, c'était une super expérience, quoi.
Ok. Ouais, c'est génial, ça, de faire des échanges comme ça.
Ouais, ouais. Mais en fait, on habite dans une ville qui est assez petite.
Oui.
Et j'ai été beaucoup inspirée. Donc, l'année dernière, quand on est allé en France, on a pas mal tourné sur Lyon, puisque mes parents sont à Lyon. Et du coup, on a rencontré des gens qui faisaient l'école à la maison sur Lyon, où il y a vraiment un réseau assez, assez grand.
Oui.
Et ça m'a vraiment donné envie de faire plus d'activités avec d'autres familles ici. Parce que sinon, ici, c'est très facile de ne pas forcément se voir. Hein, simplement parce que c'est très facile la vie ici.
Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'on ne faisait pas forcément l'effort d'organiser des choses ensemble.
D'accord.
Donc là, je voulais absolument qu'on organise plus de choses ensemble. Donc, on a mis ça en place. Et puis aussi, une autre activité qui s'appelle... faire du nature journaling, donc c'est faire un journal dans la nature. Donc on se retrouve dans un endroit, on se retrouve à la plage, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des forêts,
oui,
au bord d'un ruisseau. Et puis on observe la nature et on va ramasser quelques objets, peut-être des coquillages ou des algues, ou on va observer les oiseaux.
Oui.
Et puis on va essayer de les dessiner dans notre journal et écrire des petites choses qu'on a envie de retenir.
C'est
c'est pas du tout quelque chose qu'on a créé, hein, c'est quelque chose qui existe vraiment.
C'est Charlotte Mazon qui fait ça.
Ouais, c'est beaucoup inspiré par Charlotte Mazon, en effet, mais même, en fait, il y a même des, tu sais, tout ce qui est découvreurs, les explorateurs, voilà,
oui.
Les explorateurs, ils faisaient beaucoup ça. Voilà.
Ok.
Les découvreurs. Ouais, donc voilà, donc on a mis ça en place aussi. Et c'est vrai que d'être avec une autre famille ou d'autres familles, ça permet vraiment de s'obliger à le faire. Parce que sinon, c'est très facile de ne pas y aller, quoi.
Oui, 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 je confirme.
Ouais, voilà. Et du coup, ça nous fait un rendez-vous. Donc, on essaye de le faire tous les 15 jours. Et puis, on sait que c'est dans notre agenda. Et on sait qu'on se retrouvera à tel endroit pour faire notre petite marche. Et on ne fait pas des kilomètres du tout, hein, parce qu'il y a des enfants en bas âge en plus.
D'accord.
Mais c'est super parce que même les mamans, en fait, on le fait aussi, hein.
Ok.
Donc ça nous aussi d'avoir du temps à nous pour faire quelque chose d'un petit peu plus artistique.
Ok, super. Et du coup, ça, c'est le troisième axe, c'est ça? Ou c'était
non, pas du tout. Non.
Non,
musique. Donc
oui.
C'est spiritualité, musique. Et le troisième, c'est tout ce qui est écrit et lecture.
Ok.
Donc, savoir lire sans faute d'orthographe.
Oui.
Parce que ça m'horripile, en fait, l'orthographe. Et c'est vraiment drôle parce que... Non, mais parce que, en fait, l'anglais, c'est beaucoup plus facile que le français, quand même, au niveau orthographe.
Ouais, ouais, ouais.
Mais les Anglais et les Australiens, mais les Anglais aussi, ils sont nuls en orthographe.
OK.
Ils font des fautes d'orthographe, mais hallucinantes, qui sont, en fait, des fautes grammaticales, parce qu'ils n'ont jamais appris la grammaire.
D'accord.
Enfin, c'est pas parce que, c'est comme ça, ils sont pas très forts. Et on avait vraiment envie de passer cet amour de la lecture...
Ouais.
À nos enfants.
Donc, d'accord. En
fait, on lit beaucoup.
Mm-hmm.
On leur a énormément lu. Certains d'entre eux ont appris à lire très tard. Et c'est OK. Parce qu'on leur lit. On lit autant qu'ils veulent. On
okay.
lit tout ce qu'ils veulent. Même qui ne nous intéresse pas du tout. Et des fois, c'est dur.
Et quand tu dis qu'ils ont appris à lire tard?
Vers quel âge?
Oui.
Il n'y a pas de moyenne. C'était entre 3 ans et 11 ans.
D'accord. OK.
Et ça demande énormément de confiance.
Oui.
Je pense que c'est ce qui m'a... De lâcher prise et de la confiance. C'est sûr que ça nous a énormément aidé de ne pas avoir de pression, justement, tu vois, de la famille ou...
Oui.
Personne peut nous mettre pression ici, tu vois, on s'en fout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, je m'en fous, quoi.
Même l'inspection, du coup, parce que c'est la... Nous, c'est souvent le problème, hein, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher à cause de l'inspection.
Ouais, c'est vrai. Donc, nous, l'inspection, c'est... Enfin, bon, je t'expliquerai après, mais ça ne se passe pas du tout comme en France.
D'accord.
Et en particulier, parce que justement, il n'y a pas de niveau demandé par âge.
Et oui, c'est ce que tu nous disais.
Ouais. Juste, nous, en fait, quand ils viennent une fois par an, les enfants n'ont rien à voir dedans, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais on ne va pas les tester, pas du tout.
Mm-hmm.
Et c'est que le parent qui va expliquer à la personne qui est là. Et en plus, à chaque fois, comme on est dans une petite ville, ça a toujours été une amie à moi, donc c'est très, très compliqué, tu vois. Tu prends le café, les gâteaux, et puis voilà. Donc, et tu passes 3 heures à papoter. Parce qu'en fait, ils sont là juste pour vérifier au niveau social que ça se passe bien.
Ok.
Au niveau sanitaire, tu vois, qu'il ne faut pas te refaire. Donc, en plus, comme ils nous connaissent, c'est complètement faussé, en fait, comme examen. Et il faut, nous, qu'on leur explique en quoi ils ont progressé.
D'accord. Eh bien, je pense qu'il va falloir répertorier les petites annonces parce qu'on va tous arriver en Australie, du coup.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, en plus, ça dépend des États. Donc là, moi, j'habite dans l'État de l'Ouest de l'Australie.
Oui.
Mais tout... Sud, hein, ils n'ont aucun contrôle.
Ok. D'accord. Ouais.
Donc, voilà. Et puis là, tu vois, donc, quand on est parti voyager, ils nous ont carrément déregistré. Et puis voilà, bon, bah, c'est tout. Mais ils encouragent énormément le voyage, puisque pour eux, c'est une source inouïe d'apprentissage et de temps de qualité en famille. Donc, même les enfants qui sont à l'école, quoi.
D'accord.
Spécialement pour les enfants qui sont pas à l'école.
Et est-ce que tu veux nous parler de votre voyage ?
En fait, on est parti de Canada.
Oui.
On a acheté un camping-car américain énorme et on est monté jusqu'en Alaska. Et après, pendant 2 ans, on a traversé tous les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud.
Oui.
Et puis, on est arrivé en Amérique du Sud et là, on l'a vendu.
D'accord.
Et on s'est dit, ben, on va aller un petit peu en France parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos enfants avaient beaucoup voyagé dans le monde.
Mm-hmm.
Mais pas en France, c'est qu'ils connaissaient très très mal la France. Et donc, du coup, on s'est dit, on va aller passer un peu de temps en France. Et puis, c'était l'occasion aussi pour nous de voir nos familles qu'on ne voit pas souvent du tout. Et nos parents qui vieillissent très vite. Donc, on s'est dit, on va passer 1 an. Et on a voyagé en France en vélo avec les enfants. Sauf pendant les mois d'hiver, on a passé du temps dans une station de ski parce que c'est la moitié de l'année.
Super. Mmh.
Pour faire du ski. Ouais.
Ok.
Donc, c'était super. Pour nous, c'était vraiment dur en tant que parents de se rendre compte à quel point c'est dur d'être parent en France pour le côté jugement, en fait. Avec des gens, tu leur as rien demandé et ils vont venir te voir parce que ton môme, il se tape un caprice. Mais pas pour t'aider. Ils vont venir voir pour te dire, tu devrais lui mettre une tourniole. Pardon. Du coup, tu te mêles. Franchement, ça nous a scotché. Il y a plein de choses comme ça. On a énormément voyagé en Blablacar et en train parce qu'on n'avait pas de voiture.
Oui.
Et pareil, dans le train, le nombre de gens qui viennent nous voir, ils nous font mais là, vous n'avez pas une tablette pour vos enfants parce qu'ils font vraiment du bruit à jouer aux cartes. Ou bien, tu sais, les gens qui viennent nous voir et qui disent mais pourquoi ils crient en anglais hein? Parce que c'est leur langue, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça. Et vraiment, le côté où vraiment l'enfant, il ne doit pas être entendu en France, il doit vraiment être... Ouais, donc ça, c'est vrai qu'on le savait, mais d'avoir passé autant de temps, ça nous a vraiment vaccinés contre retourner vivre en France un jour.
D'accord.
C'est clair et net.
Okay.
Et je pense aussi que, quelque part, on avait envie que nos enfants aient l'opportunité, et c'est pour ça qu'on leur a appris le français, d'aller étudier en France.
Mm-hmm.
Je pense que cette année les a pas mal dégoûtés de la France, quoi. Alors que vraiment, on a essayé d'être positif et de rester positif devant eux.
Oui.
Et ils se sont quand même rendus compte de certaines choses. Et maintenant qu'ils sont revenus en Australie, ils se rendent encore plus compte du décalage, en fait.
D'accord. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'Australie ?
Justement pour la manière de vivre.
Ok.
Ouais, parce que c'est beaucoup plus décontracté et... Il n'y a pas de problème et c'est facile. Tout est facile, en fait.
Même par rapport au Canada ou les autres pays que vous avez traversés, pardon.
Bah, les États-Unis, c'est vraiment pas notre truc du tout. Hein.
Mm-hmm.
L'Australie, surtout l'Australie de l'Ouest, en fait, c'est très dépeuplé. Donc, il y a très, très peu de gens. Donc, les gens sont toujours contents de te parler.
Ok.
Tu vois, dans le parc ou, je sais pas, à l'arrêt de bus ou n'importe où. Même dans les grandes villes, en fait. il y a vraiment une entraide.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment agréable à vivre, en fait. Et puis, par rapport aux enfants, ouais, c'est beaucoup mieux fait. Enfin, il y a beaucoup plus des parcs pour enfants dehors. Je sais pas, tout est bien aménagé pour que les enfants puissent jouer en sécurité. Et puis, il y a le côté sécurité. C'est sûr qu'en France, j'aurais peut-être pas laissé aussi facilement mes enfants aller voir leurs copains en vélo dès 5 ans, tu vois.
D'accord.
Non. Je crois que là, il y a plus, les gens font plus attention, en fait, beaucoup plus attention aux enfants, quoi.
D'accord. Et du coup, vous habitez plus dans une petite ville, tu disais.
Ouais, une ville de 30 000 habitants à peu près, et on habite tout près de l'océan.
D'accord.
La plage, c'est un peu notre jardin.
Ok. Vous allez vous baigner tous les jours?
Tous les jours. Là, en fait, aujourd'hui, c'était un jour férié. Mm-hmm. Et donc, ce matin, en fait, elles ont trouvé des copines et elles sont allées faire du surf toute la matinée. Et ce midi, on a mangé juste en famille, parce qu'on essaie de se réserver des moments juste en famille. Et là, cet après-midi, on est retourné à la plage juste pour jouer un peu dans les vagues et tout.
D'accord.
C'est vraiment une vie différente de la vie en France, que c'est dur à expliquer, en fait. Mais tout est facile. Tout est facile, quoi. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas... Tu vois, tu prends ta voiture, il n'y a pas de problème pour trouver une place de parking.
Oui.
Ou par exemple, je ne voulais plus conduire en France, ça me stresse complètement, quoi. T'es à 50 en ville, les gens, ils klaxonnent. Ben, je suis à 50, quoi.
Et c'est ça. Mmh.
Tu vois, toute cette pression, en fait, et je crois qu'en fait, quand on vit dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et même quand on y retourne l'année dernière, on était obligé de se forcer à dire non, c'est pas la peine de stresser pour ça, quoi. Ou même, mais ce qui nous a le plus choqué, c'était le fait que des inconnus se permettent de commenter et de faire des commentaires sur ta façon d'éduquer, quoi.
Je vais te poser une toute dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous et auquel je n'ai pas pensé?
Qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? Je pense que moi, ce que j'aime, c'est suivre mes rêves, même s'ils sont complètement fous, et pas se dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible, parce que c'est trop dur. » Voilà.
Très bien.
C'est ça, tout est possible.
C'est une belle note de fin. Je te remercie beaucoup.
Bah, de rien, du tout.
Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dans une semaine tout rond. Si vous souhaitez participer, je vous laisse me contacter grâce au formulaire de contact du blog. Merci d'avoir écouté cette interview et je vous dis à très vite.